et bienvenue pour cette nouvelle saison de Podcast des Côtes. Une toute nouvelle équipe est ravie de vous accueillir pour cette année 2025-2026. Cette nouvelle émission débutera par les actualités culturelles de notre région proposées par Kylian et Erkem. La vie au collège animée par Paco et Martin présentera les nouveautés de la rentrée et vous proposera une interview de quelques élèves de 6e.
Laureline et Anaïs vous feront voyager avec le mythe du Kraken. Vous tremblerez en découvrant ce monstre. Une page société s'ouvrira ensuite avec Luce qui nous parlera d'un thème qui nous tient à cœur, le harcèlement. Enfin, Alexandre, Liam et Nolan sont les responsables d'ActuSport. Dans cette émission, nous vous proposerons l'interview du journaliste sportif François-Xavier de Châteaufort. Alors embarquez avec nous pour ce nouveau podcast des Côtes.
À vos agendas pour les actualités culturelles et sportives dans notre région ces prochaines semaines. Tout d'abord, pour les cinéphiles, rendez-vous à la médiathèque de Perona le mardi 21 octobre à 17h et le mercredi 22 octobre à 14h30 pour une projection gratuite de films d'animation pour les plus jeunes. Les films sont conseillés à partir de 5 ans. À Bourg-en-Bresse, le mercredi 22 octobre, il y a aussi un atelier passionnant à la Maison de la Culture et de la Citoyenneté. Il s'agit d'une mission sur les énergies renouvelables pour les enfants de 9h30 à midi. Les inscriptions sont ouvertes, alors ne manquez pas cette occasion de sensibiliser vos enfants à l'écologie.
Pour les amoureux de nature, direction les abords du parc de Bouvant, le même jour pour une initiation aux petites bêtes de la rivière entre 14h et 16h. C'est gratuit, mais pensez à vous inscrire, sous réserve de bonnes conditions météo, bien sûr. Toujours à Bourg-en-Bresse, les plus petits pourront découvrir le spectacle Guignol et le Père Noël à la salle Vietti, avec des représentations à 11h, 15h et 17h le mercredi 22 octobre, un moment gratuit à partager en famille.
Les fans de culture et de danse seront aussi ravis d'apprendre qu'un grand ballet de Casse-Noisette aura lieu à Interexpo le jeudi 27 novembre. Réservez vos places pour ce classique de Noël à partir de 25€. Les passionnés de l'histoire et du patrimoine peuvent se rendre à l'écomusée de la Maison de Pie en Bresse, à Saint-Étienne-du-Bois, pour un événement spécial Halloween le samedi 25 octobre. Petits et grands pourront profiter de cette expérience immersive à partir de 8,50€.
Si vous êtes curieux de culture et d'art, le Monastère Royal de Brou propose une visite guidée de l'exposition Incarnation le dimanche 26 octobre de 15h à 16h30. Vous pourrez découvrir l'histoire fascinante de ce monument emblématique. Enfin, pour les fans de basket, le samedi 1er novembre, ne manquez pas le match JL Bourg Basket contre AGDA Dijon à Equinox à 18h. Billets disponibles à partir de 5€.
C'est un programme bien rempli, alors à vos agendas pour profiter de toutes ces activités. Et rappelez-vous, pour plus d'infos, n'hésitez pas à consulter les sites web ou à appeler les organisateurs.
Bienvenue dans la rubrique « Vie du collège ». Aujourd'hui, nous allons vous parler des activités et des nouveautés qui rythment la vie du Collège des Côtes.
Sur la pause méridienne, vous pouvez avoir accès à l'association sportive. Et il y en a pour tous les goûts.
Badminton le lundi ou le mercredi après-midi avec Monsieur Jaravel.
Volley le mardi pour les 4e, 3e et le vendredi pour les 6e, 5e avec Monsieur Duclou.
Cirque avec Madame Ravel le jeudi et le mercredi après-midi.
Activité de pleine nature le mardi ou le mercredi après-midi avec M. Pesanti et M. Rabuel.
De nombreux clubs existent également pour varier les activités. Le lundi, le théâtre avec M. Zayonnet et Mme Lechny. Il y a aussi des chiffres et des lettres avec M. Adams, l'impression 3D avec M. U1, mais aussi couture avec Mme Amdani.
Le mardi, poésie avec Mme Neveu-Guichon, programmation avec M. Vilpini, échec avec M. De Rousseau, mais aussi tarot ou club Japon.
Le jeudi, club podcast radio avec M. Zayonnet, nature et jardin avec Mme Frespiro, ainsi que le club Lego avec Monsieur Adams.
Le vendredi, théâtre et musique avec Monsieur Zayonnet, Madame Villian et Madame Liebo, mais aussi cartes Pokémon.
Comme vous l'avez constaté, sans doute à la rentrée, les travaux du collège ont grandement avancé. Désormais, tous les élèves ont cours dans le nouveau bâtiment. C'est l'extension du bâtiment F qui a été inaugurée en septembre 2025. Elle comprend notamment une nouvelle entrée, un garage à vélo, des salles de classe modernes, des espaces d'études et un pôle médico-social.
La suite du chantier prévoit la démolition de l'ancien bâtiment, puis la construction d'une salle polyvalente de 150 mètres carrés. Enfin, pour l'été 2026, la cour sera réaménagée avec une mare pédagogique. Seul petit regret, les élèves du 3e actuel ne verront pas le collège totalement terminé, mais ils auront participé à une étape importante de son histoire.
Nous nous sommes demandé ce que les nouveaux élèves de 6e pensaient du collège et comment ils avaient vécu leur rentrée. Nous sommes donc allés à la rencontre de quelques-uns d'entre eux. Nous sommes avec Youk, Erkem, Mohamed, Lina et Louis qui répondront à nos questions aujourd'hui. Pour commencer, qu'est-ce que tu préfères depuis ton arrivée au Collège des Côtes, Lina ?
Ce que je préfère depuis mon arrivée, c'est les casiers, j'ai bien aimé. Et à chaque fois changer de salle afin de...
Est-ce que tu as déjà participé à un club ou une activité, Mohamed ?
Je n'ai pas encore de club et c'est pas encore officiel. Je prends ma décision, je sais pas si je vais participer à un club. Et aussi, je sais pas, il y a beaucoup de choix, c'est vrai. Il y a beaucoup de choix, mais franchement, je sais pas de quoi choisir. Ben, c'est en cours.
Qu'est-ce qui t'a le plus surpris en arrivant au collège par rapport à l'école primaire, Louis ?
Bah, c'est que on est plus un peu plus indépendant. Il y a plus de professeurs. C'est un peu plus toi qui vas dans les salles et c'est pas forcément eux qui viennent te chercher tout le temps.
Erkem, comment trouves-tu l'ambiance entre les élèves et avec les professeurs ?
Entre les élèves, c'est bien, mais par contre, entre les professeurs, ça dépend des professeurs.
Youk, que penses-tu des travaux en cours dans le collège ? Est-ce que ça te plaît ou...
Bah oui, c'est déjà bien. Avant, on était tous les jours dans l'amiante. Donc après, maintenant, on a peut-être des salles plus petites, mais c'est mieux.
Est-ce que les travaux, ils te dérangent ? Est-ce que ça fait beaucoup de bruit ?
Non,
ça te dérange.
Si tu pouvais imaginer ton collège idéal, qu'aimerais-tu y trouver, Lina ?
J'aimerais y trouver un terrain de foot pour pouvoir jouer. J'aimerais avoir un peu plus, enfin, des salles un peu plus grandes, mais c'est déjà bien comme ça. Et voilà.
Et pour terminer, Mohamed, est-ce que tu as hâte de découvrir le nouveau collège une fois les travaux terminés ?
Ouais, ça a l'air d'être intéressant. Les nouveaux bâtiments, ça change un peu des... c'est grand déjà que ça change beaucoup de la primaire. Déjà que c'est grand, c'est imposant, quoi. J'ai pas les mots, quoi. C'est grand, ça change. C'est pareil, mais on va s'habituer entre-temps.
Et merci à vous.
Comme nous, vous aimez les histoires qui vont voyager. Alors, vous êtes les bienvenus sur cette rubrique consacrée aux mythes et aux légendes. Nous avons eu envie pour cette première émission de partir dans les profondeurs de l'océan pour parler d'un monstre géant et légendaire, le Kraken.
Le Kraken vient des légendes scandinaves, c'est-à-dire du nord de l'Europe. Là où il fait froid et où les marins passaient des semaines en mer. On disait que c'était une créature immense, un poulpe ou une pieuvre géante, si grande qu'on la confondait parfois à une île. Quand les marins s'approchaient, le kraken sortait ses tentacules énormes pour attraper les bateaux et les faire couler dans les profondeurs.
En réalité, ce monstre vient sans doute de vraies rencontres avec des calamars géants, qui existent vraiment et peuvent mesurer plus de 10 mètres. Mais dans les histoires, le kraken est devenu un symbole de la peur de l'inconnu, de tout ce qu'on ne voit pas sous la surface de la mer.
Aujourd'hui, on le retrouve dans plein de films, de jeux vidéo et de livres d'aventure. Alors la prochaine fois que tu regardes la mer, imagine, quelque part, tout au fond, le kraken dort peut-être encore. Concluons notre rubrique par une petite histoire de kraken. Fermez les yeux et laissez-vous emporter.
Le maraudeur glissait sur l'eau sombre, ses voiles gonflées par le vent froid. Le capitaine Johanna crutait l'horizon. Une sensation étrange le tourmentait.
Soudain, un grondement profond, comme un rugissement sous la mer, secoua le navire. La brume se leva, révélant une immense silhouette sous les vagues. Des tentacules gigantesques surgirent, enveloppant le bateau avec une force terrifiante.
Les marlins hurlèrent, tentaient de s'enfuir. Mais il était trop tard. Le kraken, l'horreur des océans, avait décidé de surgir. Ses bras s'enroulèrent autour du maraudeur, écrasant le bois sous ses pressions mortelles.
Le navire se brisa, englouti par les ténèbres, le silence tomba, seulement brisé par les vagues, tandis que le kraken disparaissait dans les profondeurs.
Salut tout le monde, c'est Luce. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très important qui concerne beaucoup d'élèves, le harcèlement.
Oui, on en entend souvent parler. Mais c'est quoi exactement le harcèlement ?
Bonne question. Le harcèlement, c'est une violence répétée, des moqueries, des gestes, des messages, des exclusions qui font du mal à une personne. Le but, c'est de rabaisser, d'intimider ou de faire peur et surtout, ça ne s'arrête pas tout seul.
Tu as des chiffres ?
Oui, bien sûr. En 2024, environ 6% des collégiens disent être victimes de harcèlement, 5% des élèves à l'école primaire et 4% des lycéens dans notre région Auvergne-Rhône-Alpes. Cela représente plus de 81 000 élèves. C'est beaucoup trop.
Il y a plusieurs formes, non ?
Exactement. Il existe plusieurs types de harcèlement. Le harcèlement scolaire, celui qu'on voit au collège ou au lycée. Le cyberharcèlement sur Internet ou les réseaux. Le harcèlement moral ou sexuel. Et même le harcèlement téléphonique.
Et à l'école, comment on reconnaît qu'il y a du harcèlement ?
Il y a trois signes importants. La violence, un rapport de force, un élève ou un groupe qui domine. La répétition, les attaques reviennent encore et encore. L'isolement, la victime est seule, souvent incapable de se défendre.
Et pourquoi certains élèves deviennent victimes ?
Souvent, c'est à cause du rejet de la différence. Ça peut être à cause de l'apparence physique, le poids, la taille, les cheveux, mais aussi le genre, l'orientation sexuelle, un handicap, la façon de parler ou même les centres d'intérêt. Bref, tout ce qui fait qu'on est un peu différent.
Et toi, Luce, tu fais partie d'un dispositif, non ?
Oui, exactement. Je suis engagée dans le dispositif côte à côte du collège. Les élèves ambassadeurs sont formés pour prévenir et repérer le harcèlement. On apprend à écouter, à alerter les adultes et à soutenir les victimes. Parce que personne ne doit rester seul face à ça. Les adultes prennent ensuite le relais pour désamorcer les situations.
Merci, Luce. C'est un super message.
Et surtout, si tu vois ou si tu vis une situation de harcèlement, parle-en à un adulte, à un prof, à un CPE, à un parent, à un ami. Tu n'es jamais seul.
Chers auditeurs, nous concluons notre podcast avec l'incontournable rubrique ActuSport. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'accueillir un journaliste sportif reconnu, François-Xavier de Châteaufort. Depuis la fin des années 1990, François-Xavier couvre particulièrement l'athlétisme pour différents médias, notamment RMC Sport et BFM TV. Il est également présent sur la chaîne L'Équipe, Eurosport et le site Le Pape Info, où il raconte des histoires, pas seulement les performances des sportifs. En plus de commenter des compétitions, il est animateur, speaker
d'événements sportifs et maître de cérémonie pour des rencontres d'athlétisme ou des conférences. François-Xavier, merci d'être avec nous aujourd'hui. Peux-tu nous raconter comment tu es devenu journaliste sportif ?
Bonjour à toutes et à tous. Déjà, ravi de pouvoir répondre à vos questions. Comment tu es devenu journaliste sportif ? Alors, ça s'est passé à la fin des années 90. Je travaillais à l'époque pour une boîte qui fournissait des bulletins d'information gênés et sportives sur les pagers tam-tam. Donc c'était les ancêtres des téléphones portables. C'était des petits boîtiers. On avait donc des infos, des petits messages écrits de quelques signes avec donc de l'actu sportive et générale. Et l'un de mes chefs, un jour, s'en va. Et s'en va pour aller rejoindre la rédaction en chef d'une radio qui n'existe plus maintenant, qui s'appelle Sport OFM, qui était la radio sport, 100% sport du Conseil Général des Hauts-de-Seine, en banlieue parisienne. Et il m'a dit le jour où il est parti, écoute, si ça t'intéresse et s'il y a une place à Sport OFM, je t'appelle. Et quelques mois après, moins d'un an après, je crois, de mémoire, il y avait des places, il recherchait des journalistes sportifs. Et donc, comme prévu, il m'a appelé, et puis on a fait des tests, et puis ça l'a fait. Et j'ai commencé donc vraiment le vrai journalisme sportif à ce moment-là, en travaillant pour Sport OFM, pendant 3 ans, de 1999 à 2002, ensuite direction RMC, de 2002 à 2019, et puis maintenant, je suis à mon compte. Mais voilà. Résumé en quelques mots, quelques lignes, ma carrière, mais voici comment elle a commencé.
Pourquoi avoir choisi le sport plutôt qu'un autre domaine journalisme ?
Alors pourquoi avoir choisi le journalisme sportif plutôt qu'un autre domaine ? Ça s'est fait déjà un petit peu par hasard, hein, pour les raisons que j'ai expliquées dans la première réponse. Et ensuite, je me suis vite rendu compte que c'était vraiment le domaine qui me plaisait parmi tous les autres. Parce que le sport procure des émotions, qu'elles soient positives, négatives, la joie, la tristesse, la détresse, des moments délirants également de sport. Donc c'est vraiment quelque chose qui est à part. Le sport est quelque chose à part, qui rassemble, qui crée des moments complètement insensés, des renversements de situation où il y a de l'émotion, voilà. Et c'est vraiment pour moi le seul domaine du journalisme qui procure autant d'émotions diverses et variées. En plus, c'est moins prise de tête que d'autres domaines, hein, comme la politique ou autres, qui sont bien sûr intéressants, mais qui pour moi étaient pas assez à la cool, quoi, par rapport au sport. Donc voilà, et puis ça permet aussi de rencontrer de belles personnes, des athlètes, des sportifs avec de belles histoires qu'on essaie de mettre en valeur. Donc tout ça fait que le combo m'a fait vraiment choisir le sport, et pour rien au monde je regrette d'être journaliste sportif plutôt que journaliste dans un autre domaine.
Comment prépares-tu un reportage ou un commentaire avant un grand événement ?
Alors, comment je prépare un événement ou un reportage ? Si c'est un reportage, notamment sur quelqu'un, sur un athlète, sur un sportif, bien sûr, je vais me documenter avant, essayer de chercher, de fouiner un petit peu ce qu'il a déjà pu raconter ou ce qu'on a pu raconter sur lui, et essayer d'explorer des pistes complémentaires pour avoir une interview un peu différente, mais en ayant bien sûr les bases de sa carrière. Et puis un événement, notamment en athlétisme, qui est mon sport de prédilection, l'athlétisme, en fait, on a la chance d'avoir quand même des bases de données assez solides qui sont fournies par la Fédération Internationale, World Athletics, ou autres organismes, selon les événements. European Athletics pour les championnats d'Europe notamment et autres. Et donc ça nous permet déjà d'avoir quand même pas mal d'infos, parce que l'athlétisme est un sport très complexe à suivre, avec beaucoup de chiffres, beaucoup de stats. Donc déjà, intégrer toutes les stats, les chiffres, c'est déjà énorme pour avoir déjà une vue très précise. Après, lorsque lorsqu'on a le temps, bien sûr, c'est préparer des petites histoires, des anecdotes sur tel ou tel sportif. Et puis, bien sûr, à force d'en faire, les anecdotes, vous les avez en tête. Les souvenirs d'autres championnats passés, vous les avez en tête à force. Forcément, ça s'appelle l'expérience au fil du temps. Donc, ce qui fait que, voilà, pour préparer un événement, c'est quand même assez simple. Et plus l'événement est important, plus c'est simple, en fait, j'ai envie de dire. Parce que plus il y a de choses à dire, plus il y a d'informations à votre disposition. Préparer un championnat du monde ou préparer un meeting modeste en France, c'est pas pareil, quoi. Ça demande plus de travail, paradoxalement, de préparer un petit meeting où il n'y a pas trop d'infos, il faut aller à la pêche aux infos sur les athlètes, qu'un grand championnat où il y a toutes les stars, et là, forcément, avec l'expérience, le vécu et des histoires précédentes, c'est beaucoup plus simple.
As-tu un souvenir fort ou une compétition qui t'a particulièrement marqué ?
Alors, un souvenir fort, d'une compétition qui m'a marqué, oui, pour moi, les championnats du monde 2009 à Berlin, ouais, sans aucune hésitation, parce que c'était fou. C'était fou avec un homme, une star, Usain Bolt, record du monde du 100 mètres, record du monde du 200, le 4x100, le triplé. Ouais, c'était complètement dingue. Déjà l'endroit est dingue, le stade de Berlin, par le passé historique avec les Jeux de 1936. Mais là, on avait une star qui faisait le show, qui était en train de vraiment exploser après ses exploits aux Jeux de Pékin un an avant. Et puis voilà, quoi, c'est gravé à jamais dans l'histoire de l'athlétisme parce que les records du monde qu'il a fait sur 100 et 200, ils sont toujours en vigueur. Ils n'ont toujours pas été battus. 9,58 sur 100 mètres, 19,19 sur 200, où il a couru à fond du début à la fin. Franchement, quoi, je me souviens d'avoir commenté, bien sûr, ces moments historiques à la radio en direct sur RMC. Et pour moi, oui, c'est vraiment un moment très, très, très fort dans ma carrière, de commentateur, reporter, journalistique, et qui plus est en athlétisme. Voilà. Après, il y a d'autres, bien sûr, moments très très forts que j'ai vécu. Mais celui de Berlin en 2009 reste vraiment à part.
Tu suis beaucoup d'athlètes. Y en a-t-il un ou une que tu admires particulièrement ?
Alors, y a-t-il des athlètes que j'aime particulièrement ? Actuellement, j'ai envie de dire Noah Lyles. Noah Lyles, parce que pour moi, il incarne ce qui fait du bien à l'athlétisme, c'est-à-dire déjà des performances de très haut niveau, encore avec ses 3 médailles aux Mondiaux de Tokyo au mois de septembre, sur le 200 et le 4x100, le titre, et puis sur le 100 mètres, la médaille de bronze. Et puis en plus, il fait le show, quoi. Un peu comme Usain Bolt, alors pas avec la même aura et le même palmarès qu'Usain Bolt, même si petit à petit, il s'en rapproche. Il n'y a pas les records du monde, c'est un petit peu ça qui manque à Noah Lyles et un peu plus de médailles olympiques ou mondiales. Mais Noah Lyles, pour moi, ça incarne vraiment ce dont a besoin l'athlétisme. C'est-à-dire une star qui fait des performances, qui fait le show avant, pendant et après ses courses. Alors il y a un peu de trash talking, il aime bien faire ça aussi, faire un peu de en faire un peu des caisses, quoi, au niveau des réseaux sociaux, faire des annonces. Mais voilà, ça fait partie du show et l'athlète a besoin de ça. Et voilà, pour moi, c'est l'un des piliers forts de l'athlétisme actuel. Donc voilà, moi j'aime bien tout ce qu'il représente. Il y en a qui ne l'aiment pas parce que pour eux, il en fait trop. Moi, au contraire, je pense qu'il est bien dans son rôle et faut surtout pas qu'il change parce qu'il est comme ça et c'est comme ça qu'il est aussi performant, quoi. Voilà, c'est ce qui lui permet d'aller chercher cette rage pour aller chercher des médailles et continuer à écrire un peu plus son palmarès, quoi. Voilà, pour l'athlète vraiment que j'aime vraiment vraiment particulièrement, et je le dis vraiment sans détour, c'est vraiment mon chouchou.
Avec les réseaux sociaux, ton métier a-t-il beaucoup changé ?
Alors avec les réseaux sociaux, est-ce que mon travail, mon rôle a changé ? C'est surtout par rapport à la communication. communication parce que moi je me sers beaucoup des réseaux sociaux pour annoncer des événements que je vais commenter ou qui sont à suivre sur telle ou telle chaîne parce que, bah, toujours pour en venir à l'athlétisme, les gens, le grand public peut être un peu perdu parfois, savoir tel meeting on suit sur quelle chaîne, championnat on suit sur telle chaîne, sur quelle chaîne, etc. etc. Donc voilà, ça permet de pouvoir communiquer et orienter les gens qui adorent l'athlé pour suivre tel ou tel événement. Donc ça, je trouve que c'est très bien. Et puis les réseaux sociaux également, bah, c'est une façon également d'avoir des infos sur les athlètes, hein, puisqu'il y en a quand même pas mal qui communiquent sur les réseaux. Avant les réseaux, bah, il n'y avait pas autant d'informations à disposition. Alors parfois, il y a des athlètes qui communiquent peut-être un peu trop et qui en disent peut-être un peu trop. Et parfois, ça peut leur porter préjudice. Hein. C'est comme dans tout, hein, l'excès n'est pas bon. Mais en tout cas, nous, ça nous permet, journalistes, d'avoir bah, des infos qu'on n'aurait pas forcément tout le temps. Voilà, parce que les athlètes aiment bien communiquer, enfin du moins certains, sur leur vie en dehors de leur vie d'athlète et également sur leur entraînement, sur leurs séances. Voilà, tout ça c'est des infos dont moi je me nourris quand je peux pour bah, commenter, lorsque je commente, nourrir mes commentaires. Donc ça c'est très utile. Et puis les réseaux sociaux également sont des plateformes d'échange entre spécialistes d'athlés, entre amoureux d'athlés. Il y a des Space également, le Space Athlé de Mister Carter qui est très très pointu sur l'athlétisme. Et t'as un moment aussi où ceux qui veulent, ceux qui peuvent, viennent pour échanger, débriefer les meetings, les championnats. Et ça c'est très très bien. Parce que ben, voilà, ça permet aussi d'échanger et aussi d'avoir des infos et de s'échanger des infos les uns des autres et des avis également. C'est important.
Comment tu fais pour rester objectif quand tu commentes ou écris sur une équipe ou des sportifs que tu aimes bien?
Alors, rester objectif, pour moi, notamment lorsque je parle d'athlètes que j'aime bien, ben c'est primordial parce que de toute façon, c'est l'ADN du journaliste. Il faut rester objectif, quelles que soient les circonstances, quel que soit l'athlète, quelle que soit la personne dont vous parlez, de manière générale, hein, que ce soit en sport ou d'autres domaines, hein, politique ou autre. Il faut rester objectif, surtout, et ne pas montrer que ben, on aime un athlète plus qu'un autre. En fait, il y a une façon de le faire assez habile, c'est-à-dire le mettre en valeur. Le mettre en valeur parce que vous savez sur lui, ce que vous pouvez raconter sur lui, le faire briller par ce que vous racontez, par son histoire. Voilà. Ça, c'est une façon de le mettre en valeur et de manière assez objective, quoi. C'est pas dire c'est le meilleur du monde, il est meilleur que les autres. Non, non, c'est raconter ce qu'il est. Et en dehors et sur la piste. Voilà. Et forcément, lorsque vous parlez d'un athlète, d'une personne que vous aimez bien, bah, c'est toujours plus facile. Donc voilà, c'est pour moi, c'est assez simple et il faut surtout rester objectif par rapport à sa façon de traiter une info ou de traiter une actu qui parle d'un athlète ou d'un sportif que vous aimez mieux, plus que d'autres. Voilà. Il ne faut pas montrer que vous êtes complètement fan de lui. C'est surtout dire ben vraiment ce qu'il est, quoi. Voilà. Et ce qu'il représente. Et surtout se mettre à la place du téléspectateur ou de l'auditeur qui vous écoute. Parce que si vous n'êtes pas objectif, ben déjà vous rangez dans un camp. Et puis quelque part, c'est une façon aussi d'exclure la personne qui vous écoute, les personnes qui vous écoutent. Et ça, c'est jamais bon. Lorsqu'on commente un événement sportif, il faut vraiment se mettre au niveau du public qui vous écoute. Et être aussi en se dire, voilà, qu'est-ce que le public, le grand public, attend de ton commentaire, de ce que tu vas expliquer ou commenter à la télé ou à la radio. Voilà. Donc c'est la meilleure façon en étant objectif et plus ou moins neutre d'être à la hauteur.
Penses-tu que les journalistes ont un rôle à jouer contre le dopage ou les comportements violents dans le sport?
Alors par rapport au dopage, oui effectivement les journalistes ont un rôle à jouer par rapport à ça parce que lorsqu'il y a un cas de dopage, il ne faut pas le mettre de côté. Il faut le donner, il faut l'expliquer, les raisons, les faits, relater les faits, tout simplement. Pareil aussi, ne pas prendre parti pour tel ou tel athlète ou tel cas. de dopage, juste relater les faits, comme ça vous prenez le minimum de risques. Vous faites votre devoir d'information, d'informer les gens, de dire ce qui se passe, de dire pourquoi tel athlète n'est pas là parce qu'il a été pris pour dopage. Et puis voilà, c'est comme ça, de toute façon, il n'y a pas besoin de faire 50 000 interprétations par rapport à ça. Après, si vous sortez de ce cadre, là on rentre dans le cadre du débat. Donc là c'est différent, et en tout cas moi je reste sur mon rôle de journaliste, de relater des faits et d'expliquer ce qui se passe, voilà tout ça, tout simplement. Après, je reconnais que le cas extrême qu'on a eu il y a quelques semaines avec Fred Curley, l'américain, qui a été suspendu pour 4 ans pour plusieurs frasques de dopage et surtout pour non-présentation des contrôles, des no-shows, et qu'il a dit dans la foulée que il se faisait une joie de participer aux premiers jeux mondiaux du dopage. C'est des Hansen's Games, un rendez-vous complètement absurde pour moi, et qui n'a même pas lieu d'être, destiné à des athlètes qui seront donc ouvertement dopés, et voir jusqu'où ils peuvent aller au niveau de performance. Donc Fred Curley a été le premier athlétisme, à dire qu'il participerait à ces Hansen's Games. Là par contre, là je reste plus trop objectif, là je dénonce. Et moi ce genre d'athlète n'a plus rien à faire... dans l'athlétisme classique, normal, voilà. Là, par contre, là, je suis beaucoup moins objectif et beaucoup moins dans ma réserve de simplement relater des faits concernant Fred Curley. Pour les comportements violents, idem, hein, comme pour le dopage, relater les faits, voilà, dire ce qui s'est passé, les sanctions qui ont été prises envers tel ou tel athlète concerné par ces faits, et voilà. Après... comment aller plus loin, quoi. On n'est pas dans sa vie privée, on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc voilà, ça ne sert à rien de faire des interprétations qui ne sont pas fondées, qui ne sont pas justifiées. C'est juste expliquer ce qui se passe et les conséquences que ça a sur l'athlète et sur sa carrière. Et là, rappeler que tel athlète avait telle carrière et que ça va peut-être mettre un gros coup d'arrêt à sa carrière ou peut-être mettre un terme à sa carrière. Selon s'il est au début ou non de sa carrière. Voilà, c'est juste relater des faits. Pour moi, le journaliste, dans ces cas-là, doit juste expliquer ce qui se passe. Et voilà, tout simplement. Après, ça sert à rien de... Enfin, pour moi, c'est pas utile de commencer à débattre sur « oui, c'est un violent, c'est pas la première fois, il a déjà fait des tonnes, c'est pas la première fois qu'il est prévenu. » Donc, voilà. Moi, en tout cas, mon rôle de journaliste, commentateur, il est celui-là. Après, il y en a d'autres qui vont plus loin dans l'investigation, vont chercher, vont creuser un petit peu plus. Mais là, on sort du journalisme sportif.
Quel a été ton plus grand défi ou ton moment le plus fort dans ta carrière ?
Alors, l'un des moments très forts dans ma carrière, c'est un peu une sorte de défi quand même. Hein. Alors, ce ne sera pas de commenter... le 100 mètres ou le 200 mètres de Berlin de Usain Bolt dont j'ai parlé tout à l'heure, même si c'était un sacré défi pour retranscrire à la radio vraiment l'émotion et tout ce qui se passait. Moi j'ai envie de revenir en 2005, Helsinki, championnat du monde d'athlétisme. Donc un soir, on commentait pour RMC, on était en intégrale, donc on avait 3 heures d'antenne tous les soirs. Et un soir, orage faramineux, déluge faramineux sur Helsinki, à tel point que les épreuves sont interrompues pendant une heure. Et nous, le problème, c'est qu'on était à l'antenne et il n'y avait que de l'athlétisme. Et il ne se passait plus rien dans le stade. Donc on avait une heure à combler avec plus rien au stade. Donc gros moment de solitude quand même. Et il se trouve que ce jour-là, on avait appris le matin que Colette Besson, icône de l'athlétisme français, bien sûr, médaillée aux Jeux de Mexico sur 400, était morte. Colette Besson nous avait quitté le matin même. Et on s'est dit, avec ceux qui m'accompagnaient, notamment Marie-Zéban Gépé et Florian Janton, qui était avec moi à Helsinki, on s'est dit, de toute façon, on n'a pas le choix, on a une heure d'antenne à faire, il ne se passe rien, il faut trouver une idée. Et en fait, on a fait une libre antenne autour de Colette Besson avec les auditeurs, les auditrices. On leur a demandé de nous appeler à RMC. Et on a fait une libre antenne sur voilà, les souvenirs de Colette Besson. Qu'est-ce qu'elle vous évoquait, qu'est-ce qu'elle représentait pour vous en tant que fan d'athlétisme. Et on a fait une super antenne, mais le comble du comble dans cette histoire, c'est qu'il pleuvait tellement. Et on était au stade, hein, on était en tribune, et plus trop protégé vu la pluie et le vent qu'il y avait. C'est qu'en fait, on a fait quasiment une heure d'antenne autour de Colette Besson, mais sous la table commentateur. Parce que pour se protéger de la pluie, en espérant que le matos tienne, parce qu'il pleuvait vraiment énormément. Et donc on a tenu l'antenne pendant une heure, et puis après ça a repris, donc la compétition a repris son cours. Mais donc on a fait une heure d'antenne, de libre antenne sur Colette Besson, sous le déluge, sous le cataclysme, et sous la table commentateur, pour se protéger de la pluie, et protéger le matériel également. Et c'était assez lunaire, quoi. Tous les confrères, eux, s'étaient mis à l'abri parce que ils n'avaient pas un direct intégral comme nous. On était quasiment encore les seuls en tribune à braver les éléments et être en direct pour parler de Colette Besson. Donc ça, c'était vraiment un souvenir, c'était un vrai défi. Hein. Et on l'a relevé et franchement, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué dans ma carrière. Je suis content qu'on l'ait relevé, ce défi. Et en plus, c'était une très très bonne antenne. Donc, à tout point de vue, c'était top.
Pour finir, si tu pouvais couvrir n'importe quel événement sportif, passé ou futur, lequel choisirais-tu ?
Alors, quel événement j'aimerais commenter ou vivre dans les événements à venir ? Les prochains championnats du monde à Pékin en 2027. Championnat du monde d'athlétisme en plein air. Et quand je dis vivre, c'est vraiment être là-bas. J'aimerais vraiment être là-bas, le vivre là-bas. Parce qu'en fait, le nid d'oiseau à Pékin, qui a été fait pour les Jeux Olympiques de Pékin en 2008, j'ai eu l'occasion d'y aller déjà deux fois pour les Jeux Olympiques 2008 et pour les Mondiaux d'athlétisme 2015 qui avaient lieu à Pékin. Et ce stade, pour moi, avec le stade de Berlin, je sais pas, c'est l'un de mes endroits préférés. C'est l'un de mes stades préférés avec Berlin. Ce nid d'oiseau, l'architecture... On a vraiment l'impression d'être dans une cage d'oiseaux enfermés à l'intérieur. Enfin, c'est un endroit magique. Et puis, il s'est passé des événements magiques dans ce stade. Hein. L'avènement du Chad Bolt, champion olympique, que tout le monde a découvert vraiment, que le grand public a réellement découvert en 2008. Les Mondiaux 2015, qui étaient de très bonne facture également. Voilà, c'est un endroit génial. Le cadre est fantastique. Chargé d'histoire déjà, à sa façon, même si le stade existe depuis pas si longtemps que ça. Donc j'aimerais bien retourner à Pékin en 2027 pour vivre ces championnats du monde sur place, et non pas à distance comme je l'ai fait cette année encore pour Eurosport, pour Tokyo ou d'autres championnats du monde. Donc, c'est vraiment un événement que j'aimerais vivre. J'ai hâte de le vivre, mais sur place. Et puis les Jeux Los Angeles aussi, bien sûr. Parce que les Jeux Los Angeles, je suis jamais allé là-bas. Et puis, aussi, c'est un endroit magique. Aller au Colisée, au Stade Coliseum, pour les Jeux, là où se sont disputés les Jeux de Los Angeles il y a très longtemps, en 84. Ça aussi, c'est, je pense, un petit moment qui risque d'être très sympa. On verra. On verra si j'y vais.
Merci beaucoup François-Xavier d'avoir répondu à nos questions. Voilà, le podcast des côtes, c'est fini pour aujourd'hui. En espérant que cette émission vous a plu, nous vous retrouvons nombreux pour notre prochain numéro qui sera publié peu avant Noël. À bientôt !